Chapitre 4. Le lendemain, à l'heure dite, c'est-à-dire au début de l'après-midi, le moderne Barbe Bleue venait prendre Madame Guilin chez elle dans son taco, une simple camionnette. Il faisait un temps magnifique. Les nouvelles de la guerre, sans être encore fameuses, étaient cependant plutôt rassurantes. Il soufflait un vent d'optimisme, et ainsi que Mario Cavallarossi chante au troisième acte de la Tosca, l'aimable veuve pouvait s'écrier « Je n'ai jamais autant aimé la vie !» Adroit metteur en scène, Landru s'était efforcé de rendre aussi attrayante que possible la villa de Vernouillet. Il l'avait fleurie avec un soin tout particulier. Extérieurement et intérieurement, elle était d'ailleurs fort agréable. Les meubles très ordinaires qui la remplissaient étaient bien faits pour plaire à une femme qui, éprise de luxe facile, ne pouvait avoir que des goûts très terre-à-terre. Après lui avoir fait faire le tour du propriétaire, son hôte l'invita à s'asseoir en face d'une table où il avait préparé une collation, car il n'avait pas été sans saisir que Madame Guillain était un tantinet gourmande. Tandis qu'elle se régalait de baba, de choux à la crème et d'éclairs au chocolat, qu'avant de se rendre rue Crozatier, il avait acheté chez un des meilleurs pâtissiers de la capitale, Landru se montra si aimable, si gai, si drôle même, que de plus en plus conquise, Madame Guillain s'écriait « Oh, il y a longtemps que j'avais passé un aussi beau moment. »« Qui, j'espère, sera suivi de bien d'autres ?» fit aussitôt l'infernal bonhomme. Et quand ils se levèrent de table, jugeant que le moment était venu pour lui de se montrer un peu plus entreprenant, il risqua un béco sur le coup de sa conquête, qui, tout en poussant un petit éclat de rire nerveux, le repoussa si doucement, si mollement, que Landru, l'attirant dans ses bras, lui imprima sur les lèvres de ces baisers savants dont il avait le secret et qui acheva d'affoler la malheureuse. Mais, jugeant prématuré d'achever la prise d'une place forte dans laquelle il avait déjà réussi à pratiquer une si large brèche, il fit d'un ton enjoué « Bien, voulez-vous que nous fassions maintenant le tour du propriétaire ?» « Volontiers !» acceptait sa nouvelle conquête. Sauf la cave et le grenier, Landru lui fit visiter le pavillon de fond en comble. Elle le complimenta sur sa propreté, son ordre, et fit même en fermant à demi les yeux. « Il doit faire bon vivre ici. »«
Oh, pas quand on est seul !» soupira le gredin. Ils s'enfuirent au jardin.
Landru lui cueillit un bouquet qu'il lui remit en disant
« Vous l'emporterez en souvenir de moi !»
Elle le remercia d'un regard attendri et Landru poussa la bonne éducation jusqu'à demander à Madame Guilin si la fumée du tabac ne l'incommodait pas.
« Bon, pas du tout, répliqua-t-elle. Je fumerai même volontiers une petite cigarette. »
S'apercevant qu'il en était démuni, il fit «
« Voulez-vous m'excuser 2 minutes, le temps de faire un saut jusqu'au bureau de tabac ?»
Il partit, laissant seule l'aimable veuve, qui en profita pour examiner en détail la pièce où elle se trouvait et qui servait à la fois de salon et de salle à manger. Avisant une porte, elle constata qu'elle donnait dans la seule pièce que son hôte ne lui avait pas fait visiter. Elle voulut l'ouvrir, mais la porte était fermée à clé. Poussée par une curiosité que certains ne manqueraient pas de qualifier de « bien féminine », mais qui en somme était toute naturelle, elle colla un œil à la serrure. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant, à l'intérieur d'une chambre de dimension plutôt restreinte, des vêtements et des bottines de femme. « Y aurait-il une maîtresse ?» demanda-t-elle. Avec un sentiment de déception et même d'angoisse qui la surprit elle-même. Et toujours le regard fixé sur ces objets qui semblaient indiquer la présence d'une femme dans la maison, Elle demeura comme hypnotisée devant ce spectacle si bien fait pour toucher, faucher ses espérances en fleurs, et ne s'aperçut pas du retour de Landru. En la voyant ainsi, le gredin eut un geste agacé. Mais, se ressaisissant aussitôt, il lança d'un ton enjoué. « Prenez garde, madame, il y a un chien très méchant enfermé dans cette chambre. » Madame Guilin tressaillit, se redressa et répliqua à l'air vexé. « Je ne sais pas s'il y a un chien méchant, mais en tout cas... » Elle s'arrêta, confuse. « Eh bien, dites, invita Landru, que cet incident non seulement ne semblait pas mécontenté, mais paraissait au contraire amusé vivement. » Tout intimidée, Madame Guillain balbutiait. Je viens d'apercevoir des robes, des souliers de femme. Et alors? Je me suis demandé si par hasard il n'appartenait pas à une amie. Petite friponne, s'écriait Landru en lui tapotant familièrement la joue. Puis, adoptant tout à coup un ton grave, attristé, il ajouta avec componction « Oh oui, cette chambre était celle de ma pauvre mère, que j'ai perdue il y a 15 mois. J'y viens seul parfois, pour me recueillir et songer à celle qui n'est plus et que j'aimais tant. « Oh, pardonnez-moi !» s'écria la veuve entièrement dupe de ce nouveau mensonge. Et avec effroi, elle ajouta « Oh, je suis désolé d'avoir réveillé en vous d'aussi douloureux souvenirs. Je ne vous en veux pas, chère madame, affirmait le gredin. Mais cela me prouve au contraire combien vous avez bon cœur et ne peut que m'attacher davantage à vous. Et avec un art véritable de l'invention et de la parole, Landru se mit à lui faire un éloge de sa pauvre chère maman, qu'il para de toutes les vertus, de toutes les qualités, trouvant le moyen de faire comprendre à son auditrice qu'il écoutait, bouche bée, qu'après l'avoir sauvé des griffes de l'envahisseur, il s'était efforcé d'adoucir de son mieux ses si tristes derniers jours. Et avec un trémolo dans la voix, il continuait. « Oh, je suis sûr que si elle vous avait connu, elle vous aurait aimé tout de suite. » Madame Guilin, qui avait les yeux pleins de larmes, tendit la main à Landru, qui la tint un moment en silence, serré entre les siennes. Puis, constatant que l'heure avançait, elle parla d'aller prendre son train. « Non, mais pas du tout !» reposait Landru. « Je vais vous reconduire à Paris dans ma voiture. »« Oh, je crains d'être indiscret. »« Non, nullement !»« Cela va vous faire bien des allées et venues. » Je vous assure que je rentrerai très bien par mes propres moyens. » Mais le bandit se récriait. « Madame, je vous en supplie, ne me privez pas du grand plaisir que j'aurai à vous accompagner jusque chez vous. Je vous assure que c'est moi qui serai l'obligé. » Devant une telle insistance, Mme Guillain ne pouvait que s'incliner. D'ailleurs, elle était enchantée de passer encore quelques bons moments dans la société de celui qui, au cours de cette journée, avait achevé de la subjuguer entièrement. Et ravie, elle se disait, « Pour qu'il se montre si galant à mon égard, il faut que de mon côté je ne lui ai point déplu. Sans cela, il m'aurait laissé partir par le train. » Il était près de 7h30 lorsqu'ils arrivèrent rue Crozatier. « Il est bien tard, » constatait Madame Guilin. « Oh, si j'osais, cher monsieur, je vous demanderai bien de dîner avec moi à la fortune du pot. »« Oh, chère madame, vous êtes vraiment trop aimable, mais je m'en voudrais de vous causer un pareil dérangement. »« Non, je serais très contente, au contraire. »« Ben, il y a moyen de tout arranger, c'est d'aller au restaurant. »« Oh non, monsieur, je ne veux pas. »« Ben, je comptais m'y rendre seul, mais je serais ravi si vous vouliez bien me tenir compagnie. » « Sans cérémonie, en camarade. »« Mais vous acceptez ?»« C'est-à-dire que... » Déjà, Landru avait remis son moteur en marche et il stoppait devant un restaurant de la place de la Bastille où l'on pouvait voir encore à cette époque, pour un prix modeste, faire un bon repas. Pendant tout le dîner, le séducteur fit preuve d'une verve intarissable. De même qu'avec une femme sentimentale, il se fût montré langoureux à souhait, il n'hésita pas à sortir à sa nouvelle recrue, dont il avait très vite distingué le goût pour les plaisanteries faciles, tout un stock de bons mots et d'anecdotes burlesques qui la comblèrent d'aise. Ensuite, on s'en fut au cinéma. Après quoi, Landru reconduisit Madame Guilin jusqu'à sa porte, et après avoir échangé un ardent baiser, ils se quittèrent après s'être promis de se revoir dès le lendemain. Ainsi que le misérable l'avait prévu, les choses n'allaient pas traîner. Moins de 8 jours après, Landru faisait sa demande en mariage officielle, et inutile de dire qu'il était immédiatement agréé. Aussitôt, sa troisième fiancée écrivait au maire de Ballainvilliers, son pays d'origine, pour réclamer les papiers nécessaires. Entre-temps, Landru lui annonçait qu'il était nommé consul en Australie, ce qui achevait de combler la malheureuse d'orgueil et d'aise. Un consul, pour elle, c'était aussi important qu'un ambassadeur. Et puis, voyager, voir du pays, avec l'homme qu'on aime, dont on est aimé, quel beau rêve! Tout à son bonheur, elle fait des commandes à sa couturière et à sa corsetière, et elle s'occupe de reliquer sa fortune. Elle confie à son fiancé ses valeurs, son argent, ses bijoux, puis le charge de régler les différends qu'elle a avec son propriétaire, auquel elle doit 3 termes et qui se refuse à accepter son congé. Et vers la fin de juillet, elle part définitivement pour Vernouillet en compagnie de Landru. C'est fini, elle ne reparaîtra plus jamais. Les dernières nouvelles qu'on a d'elle datent du 8 août. C'est une lettre qu'elle a adressée à sa fille, à laquelle le fiancé a ajouté quelques mots pour exprimer son désir de faire la connaissance des enfants de sa future épouse. Cette lettre parvint à destination le 9 ou le 4 août, mais certainement à cette date, Madame Guilin était déjà tuée, car dès le 2 août, Landru, sous le nom de Cuchet, donnait au banquier l'ordre de vendre de 2 obligations communales 1900 et 1880, que Madame Guillaume avait emporté chez elle sans les déposer à la Banque de France où sa fortune était placée. Comment Landru va-t-il s'emparer de cette fortune tant convoitée et conservée dans les coffres les plus difficiles à ouvrir? Cette fois, il va se surpasser. Il va rouler la Banque de France. Voici comment. Tout d'abord, le 15 octobre, il déménage le mobilier de l'appartement de la rue Crozatier. Après avoir appelé le propriétaire devant le juge de paix, réglé les 3 termes en retard et versé une légère indemnité pour les réparations locatives. À la concierge, qui s'étonne de ne pas voir Madame Guillain, il répond « Oh, je porte très bien, mais j'ai tenu à lui éviter les fatigues du déménagement. » Et le mobilier est transporté dans un garage, 21 rue des Textes, où il demeura 1 mois, au bout duquel Landru l'enlèvera, sans même aviser le dépositaire. Ensuite, il loue une chambre meublée, 37 avenue MacMahon, au nom de Madame Guillain. Il explique à la concierge qu'il agit pour le compte d'une parente malade, qu'il a chargé de recevoir provisoirement son courrier. Puis il commence avec la Banque de France toute une correspondance d'affaires, écrivant comme s'il était en réalité Madame Guillain, donnant des ordres successifs de vente de valeurs, et finalement priant le grand établissement financier de tenir ses titres à la disposition d'un mandataire durement accrédité. Monsieur L, fondé de pouvoir d'une banque de la rue Saint-Lazare. La Banque de France ne fait aucune objection, croyant correspondre régulièrement avec l'authentique Madame Guillain, et accepte de remettre ses valeurs en dépôt à Monsieur L. Et le 21 décembre, elle avise Madame Guillain, 37 avenue MacMahon, que les valeurs ont été remises à Monsieur L. comme elle l'avait demandé. Quant à l'argent produit par la vente de ses titres, l'ordre lui la retire en trois fois sur de simples reçus signés par lui du nom de Georges Petit, 15 avenue des Termes. Le tour était joué. Le gredin avait en sa possession toutes les sommes qui constituaient la fortune de Madame Guillain. Mais n'est-ce pas formidable? Mais de nouveau, la question se pose. Comment le misérable fait-il disparaître ses victimes? Bien que Landru n'ait jamais voulu révéler son secret, et a toujours prétendu que sa conscience était pure de toute reproche, nous verrons par la suite jusqu'à quel point il avait poussé ce que l'on pourrait appeler l'art du crime. À l'aide de recoupements, de faits, de témoignages, de déductions basées à la fois sur les événements passés en meilleure source, nous arrivons à reconstituer ces assassinats dans toute leur horreur et aussi dans toute leur intégrité. Mais nous n'en avons pas encore fini avec les fiancés de Landru. Et comme écrivant l'histoire de ce bandit, nous avons résolu de ne pas un seul instant nous écarter d'une vérité beaucoup plus passionnante que n'importe quel roman policier ou autre, et que pour atteindre notre but, il est indispensable de ne rien laisser dans l'ombre, nous poursuivons donc dans leur ordre chronologique le récit des méfaits de Landru, criminel encore plus effroyable que celui dont s'est emparée la légende. Chapitre 5. Malgré son audace inouïe que justifiait sa réussite et son impunité, il faut croire que Landru ne se trouvait plus dans la villa de Vernouillet, dans les conditions de sécurité et de discrétion dont il avait besoin pour faire disparaître les malheureuses victimes qui s'y étaient succédées. Certes, on traversait alors une période singulièrement troublée. Plus que jamais, la guerre était, nous ne dirons pas l'unique, mais la principale préoccupation de tous. Malgré tout, bien qu'elle absorbât presque entièrement tous les esprits, y compris ceux chargés de veiller sur la sécurité publique, il ne faudrait pas en conclure que la police était à cette époque inagissante au point qu'un criminel tant soit peu hardi pouvait, sans aucun risque pour lui, supprimer les gens qui le gênaient ou dont il voulait s'approprier les dépouilles. Tous les hommes de bonne foi seront de cet avis. Il est toujours plus facile, en temps d'hostilité que de paix, de s'attaquer au bien et même à l'existence de ses semblables. Mais de là à prétendre qu'on peut voler, piller, tuer, assassiner au nez à la barbe d'une police complètement désaxée, c'est commettre une erreur et une injustice. Ainsi que devait plus tard le proclamer l'éminent avocat général Robert Godefroy, nous avons eu, et nous aurons encore l'occasion, au cours de cet ouvrage, de citer d'importants extraits de son décisif acte d'accusation et de son magistral réquisitoire, la police française, pendant la guerre, a fait plus que son devoir. Et elle a eu en cela d'autant plus de mérite qu'en bloc et individuellement, elle n'a pas cessé, nous ne saurons trop le répéter, de faire toujours son devoir. Il a fallu un bandit de l'envergure de Landru pour pouvoir, pendant plusieurs années consécutives, connaître cette série de crimes devant lesquels on demeure épouvanté. Nous venons déjà de voir avec quelle astuce il les préparait et les combinait. Et quand on saura quelle prudence, nous pouvons dire quelle méthode, il apportait dans leur exécution, On sera certainement moins surpris qu'il ait pu échapper si longtemps à un châtiment. Mais on arrive même à se demander, et à une époque normale, il n'eût pas bénéficié de cette terrible impunité qui lui a permis pendant plusieurs années d'accumuler tant de victimes. Le monstre, en effet, se tenait sur ses gardes. Sans doute, après la liquidation de l'infortuné Mme Guillain, se dit-il qu'il serait plus prudent de quitter Verneuillet, où, à certains signes encore vagues, avait-il cru remarquer que l'attention de ses voisines, et principalement de ses propriétaires, commençait à se fixer sur lui. Pas encore, certes, avec malveillance, mais au moins avec une curiosité qui aurait bientôt pu devenir gênante. Toujours est-il qu'il résolut de transporter ailleurs ses pénates. Au cours de ses randonnées dans la grande banlieue parisienne, dont le but était à coup sûr de découvrir un nouveau gîte où il pourrait exercer en paix son atroce industrie, son attention avait été attirée par une villa située près de Gambet, commune éloignée de Seine-et-Oise. Elle s'élevait à 300 mètres du village et était isolée de toute habitation. Bien aménagée intérieurement, avec des dépendances commodes et spacieuses, possédant un grand jardin, elle offrait à Landru des garanties de discrétion et de sécurité que ne pouvait plus lui donner le pavillon de Verneuillet. Il s'aboucha aussitôt avec son propriétaire, M. T., ancien entrepreneur de travaux publics, qui demeurait à Melun. Il en devint locataire sous le nom de M. Dupont, domicilié de Durnétal à Rouen. Il transportait aussitôt ses immeubles de Verneuillet et s'y installait aussi confortablement que possible. Maintenant, Landru va pouvoir souffler. N'étant plus talonné par d'immédiats besoins d'argent, il pourra se consacrer à ce qu'il appelle ses devoirs de père de famille, c'est-à-dire à sa femme, pauvre personne falote et résignée, qui dans son aveuglement, paraissant prendre pour article de foi tous les mensonges que son mari lui débite sur le ton le plus naturel du monde, et à ses deux fils, plein de respect pour leur père, qui exerce sur eux un ascendant tel qu'il lui obéit sans discuter et ne se permettrait pas de lui poser la moindre question. Jamais d'ailleurs Landru n'a cessé de leur envoyer des subsides, de s'intéresser à eux, de leur rendre des visites. Il offre même à sa femme le petit secrétaire de la malheureuse Labordeline. Mais que peut-il bien raconter aux siens? Suspendus à ses lèvres comme à celles d'un oracle, il l'écoute, il le croit. Il sait très bien que d'avance tout ce qu'il dit sera accepté. N'est-il pas le maître? Il est obéi, il est craint, il est aimé. Et dès qu'il connaîtra des embarras de trésorerie, il n'aura plus qu'à se remettre au travail, c'est-à-dire ouvrir l'ère de ces crimes mystérieux, abominables. Quelle va être sa nouvelle victime? C'est une havraise, la veuve Berthe Eotric, qui est venue se fixer en 1907 à Hermont, en Seine-et-Oise. Prise comme bien d'autres à l'amorce d'une annonce insérée par Landru dans le journal du 12 juin 1915, et semblable à celle que nous avons citée plus haut, elle a écrit à M. G. G. qu'elle désirait se remarier et qu'elle acceptait d'entrer dans ce but en rapport avec lui. Ainsi que nous l'avons déjà constaté, Landru était un méthodique. À l'abri de toute impulsion, il calculait tout et ne livrait rien au hasard. Aussi, avant de répondre à Madame Iléon, il se renseigna. Auprès de qui? De la propriétaire à laquelle il se présenta avec son savoir-faire habituel et qui tout de suite, conquise par ses bonnes manières, lui raconta tout ce qu'il voulut lui faire dire. C'est ainsi qu'il apprit que Madame Léon était venue se fixer à Paris en 1907, qu'elle avait une fille qui s'était mise en ménage de son côté avec un sieur K, engagé au début de la guerre et tué à la fin de l'été 14, enfin que le 1er avril 1915, la jeune femme était morte à l'hôpital Necker. Aux adroites questions que Landru lui posa, l'aimable propriétaire lui répondit qu'elle ignorait quelles étaient les ressources de sa locataire, mais qu'en tout cas elle était en possession de deux mobiliers, le sien et celui de sa fille, avec lequel elle habitait de temps à autre rue de Rennes. Elle ajouta que Madame Léon était une très bonne personne, très douce, très facile à vivre et qu'elle n'avait jamais eu d'ennui avec personne. Il n'en fallait pas davantage pour décider Landru. Le jour même, il écrivait à Madame Léon une lettre signée Petit et dans laquelle il lui demandait un rendez-vous. La première rencontre eut lieu à Ermont, chez Madame Léon. Cette fois, Landru se présenta sous la personnalité d'un industriel des pays envahis. Aux trois quarts ruiné par la guerre, il n'avait pas voulu, disait-il, attendre la fin des hostilités pour refaire sa fortune, et il avait accepté une situation qui ne pouvait être que très brillante, celle de représentant au Brésil d'une importante fabrique de machines-outils. Et fort astucieusement, il ajouta, cela me plaît d'autant plus que je ne serai obligé de passer environ que 5 mois là-bas, et le reste du temps, je serai en France. Le Brésil est, dit-on, un très beau pays, minauda la pauvre veuve, en laquelle son séducteur a tout de suite repéré une femme sentimentale, romanesque, assez coquette et surtout ennuyée d'être seule. Ainsi que celles qui l'ont précédée, elle se désignait elle-même aux bandits en quête de butin, tel un fauve à la recherche d'une proie. Mais décidément, songea-t-il, satisfait, on dirait qu'elles sont fabriquées en série. Eh oui, Landru, elles étaient fabriquées en série, ces malheureuses, qui voulaient à tout prix refaire leur vie. Elles avaient toutes le même petit idéal, un peu de bien-être, un peu de bonheur, un peu d'amour. Elles étaient décidées à s'attacher, à se dévouer fidèlement, tendrement même à celui qui réaliserait leur modeste rêve. D'avance, elles étaient prêtes à écouter favorablement les offres, les déclarations, les protestations de celui qui, prince charmant sur le retour, mais charmant tout de même, viendrait les tirer, belles au bois dormant, défraîchies de leur léthargie sentimentale. Gobeuse, dira-t-on, oh oui, mais combien touchante, combien à plaindre ces pauvres femmes. Et voilà Madame Hénon qui s'enflamme à son tour. Loin de l'effrayer, un séjour annuel au Brésil l'enchante. Lorsque j'habitais le Havre, dit-elle, je connaissais un capitaine de la marine marchande qui m'avait fait dans ce pays de fréquents séjours. Oh, il en vantait beaucoup la beauté et me répétait souvent que la rade de Rio de Janeiro est le plus beau site du monde. Oh, c'est vrai, bluffait magistralement le faux petit. Oh, je suis allé 3 fois au Brésil et mon plus vif désir est d'y retourner, surtout en la compagnie d'une femme qui sait apprécier ce qu'elle voit et se plaît à admirer la nature. La conversation engagée sur un pareil terrain ne pouvait manquer de prendre un tour favorable au projet du hideux coquin. Mais Landru savait graduer ses effets. S'il avait le flair d'un bon chasseur, il avait aussi la patience d'un vrai pêcheur à la ligne. Et ce ne fut que lorsqu'il fut bien sûr que Madame Léon mordait bien à l'hameçon, c'est-à-dire à la suite de plusieurs entrevues, qu'il lui proposa carrément le mariage. Ainsi qu'il s'y attendait, elle accepta d'emblée. Landru se garda bien de l'emmener tout de suite à Cambrai. En effet, il s'agissait avant tout pour lui de réaliser l'avoir de sa future victime. Cet avoir, où somme toute était plutôt maigre, et le sinistre bonhomme dut éprouver un vif désappointement lorsqu'il se rendit compte que l'actif de la veuve Éon était très inférieur à celui qu'il lui supposait. Enfin, après avoir calculé que tout frais déduit, nous verrons plus tard combien Landru était un homme d'ordre. Il lui resterait encore un bénéfice honorable. Il résolut de brusquer les choses, trouvant inutile de manger d'avance la succession qu'il était en train de s'adjuger et dont il avait besoin pour faire le pont en attendant la nouvelle affaire qu'il préparait déjà dans l'ombre. Donc, le 30 septembre, Landru réglait en compagnie de sa nouvelle fiancée le loyer du logement d'Hermont, et en même temps, sur ses conseils, Madame Éon vendait à un marchand de meubles ses deux mobiliers et se débarrassait de l'outillage de M. K, l'ami de sa fille, au profit d'un tailleur du faubourg Montmartre. Cela fait, elle se déclarait prête à suivre Landru.
À quand la noce ? Demandait-elle radieuse.
Dès que j'aurai reçu mes papiers, répondait Landru. Mais j'ai peur que ce soit un peu long. Les communications avec les pays envahis sont extrêmement laborieuses. Heureusement que j'ai un cousin très bien placé au ministère des Affaires étrangères, et grâce à lui, j'en suis sûr, nous n'attendrons pas longtemps. En attendant, pour ne pas perdre de temps, je vais m'occuper de nos deux passeports pour le Brésil.
Le gredin avait réponse à tout, et savait donner à ses plus éhontés mensonges les apparences de la plus saine vérité. Comment Madame Éon, ainsi que ses devancières, et celle qui devait lui succéder, n'auraient-elles pas accordé toute leur confiance à un homme doué d'une telle puissance de persuasion? Aussi, lorsqu'après lui avoir joué, et avec quel art, la comédie du grand amour, Landry demanda à Madame Éon de cohabiter avec lui, il n'eut pas grand-peine à vaincre la légère résistance. « Bon, puisque nous allons nous marier, s'écrie-t-elle, un jour plus tard, un jour plus tôt, qu'importe, nous ne sommes plus des gosses, nous ne devons de compte à personne. » Ni vous ni moi n'avons d'enfants, ni même une famille. Nous nous aimons, à quoi bon retarder, par des préjugés inutiles, l'instant d'un bonheur auquel nous espérons.
Mère, je vous en supplie, vous ne refuserez pas d'être à moi, vous ne voudrez pas que je sois le plus malheureux des hommes.
Mère céda. Ils s'en furent cohabiter à l'hôtel de l'Union, 8 rue de Budapest, puis dans une chambre du quartier des Ternes, mais quelques jours seulement. L'assassin avait hâte d'en finir. Alors il fait transporter à Gambet 300 kilos de charbon et une cuisinière qu'il a achetée chez un quincaillier de Houdan. La maison est prête pour recevoir ses hôtes. Landru en a fait à son ami une description des plus attrayantes. Et bien qu'elle n'aime guère la campagne pendant l'hiver, on est en décembre, elle consent cependant à y s'y rendre. Elle est très économe, elle aussi, et elle est de l'avis de son compagnon. L'hôtel, ça finit par coûter trop cher. Ils partent, l'on part en auto. Landru a remis sa camionnette dans le hangar de sa nouvelle villa, mais en chemin de fer. Le gredin prend lui-même au guichet deux billets pour Garancière, la gare qui dessert Gambet. Mais il prend un billet double et un billet simple. Le billet aller-retour pour lui, l'autre pour sa compagne. Il n'y a pas de petites économies. Il sait très bien que la veuve Héron ne viendra pas à Paris. En effet, elle ne devait jamais reparaître. Cours à la mort, malheureuse, le sourire aux lèvres. Cet homme, ce fiancé, cet amant, qui t'avait déjà condamné lorsqu'il te donnait dans ses bras
et qui te faisait vibrer sous ses étreintes, sous ses baisers, sous ses caresses. Ce vampire, non pas des morts, mais des vivants, va la nuit prochaine t'envoyer rejoindre celle qu'il a déjà sacrifiée. Où? Comment? Jamais tu ne sortiras de ta tombe mystérieuse pour nous le révéler. Chapitre 6. Depuis un certain temps, c'est-à-dire vers le début de mai 1915, Landru, toujours au moyen d'une petite annonce, était entré en relation avec une autre veuve, Madame Collomb, qui remplissait toutes les conditions requises pour devenir l'une de ses fiancées. Femme d'un commissionnaire en soierie, elle s'était placée, après la mort de son mari, dame de compagnie à Marseille. Puis elle était venue à Paris, où elle était entrée comme dactylographe à l'Union prévoyante. Habitant un gentil appartement, 15 rue Rodier, elle était âgée de 44 ans. Fort bien conservée, elle s'habillait avec goût. Douée d'un heureux caractère, elle aurait pu faire une compagne très agréable. De plus, elle avait 8 000 francs d'économie. Inutile de dire que c'est ce qui intéressait uniquement notre moderne barbe bleue. Mais Madame Collomb n'était pas libre. Elle avait un ami, M. B., avec lequel elle vivait depuis longtemps. Et elle hésitait à rompre, même pour contracter le mariage légitime que Landru, qui s'était donné à elle pour un monsieur Georges Cuchet, réfugié de Lille et directeur d'une usine à Montmartre, avait naturellement fait miroiter à ses yeux. Il n'insista pas. N'avait-il pas affaire ailleurs avec Madame la Bordeline, Guyen et Éon? Malgré tout, il n'avait pas rompu avec la belle Madame Collomb. Celle-ci, dans l'intervalle, avait définitivement quitté son ami, et quelques jours après la disparition de Madame Éon, il reprenait avec elle des relations plus actives qui devaient bientôt se terminer par des fiançailles en règle. Mais Landru était trop fin psychologue pour ne pas s'être rendu compte que la veuve de l'ancien commissionnaire n'était pas de la même série que ses précédentes coquettes. Plus fine, plus cultivée, elle n'était point de celle que l'on endort avec un regard ou que l'on grise avec des paroles. Il lui fallait, moralement et matériellement, du positif. Il lui ordonna. Il commença par louer un petit logement rue de Châteaudun, sous le nom de Frémillet, prétextant qu'il pourrait ainsi, grâce à ces deux noms, continuer à toucher son allocation de réfugié, tout en possédant un pied-à-terre à Paris et une villa à la campagne. Ensuite, il raconta à Madame Collomb, toujours avec cet accent de sincérité qui le rendait si redoutable, qu'il avait reçu d'importantes commandes du gouvernement et allait monter une usine dans le Midi. À l'appui de ces dires, il mit sous les yeux de la veuve des plans, des lettres, des documents qu'il avait fabriqués lui-même et qui, pour quelqu'un de peu averti, ne pouvaient être que d'une authenticité indiscutable. Quand il l'eut bien malaxé, convaincu, embobiné, il emmena à Gambet avec son petit magot qui lui avait fait retirer de l'agence, du comptoir d'escompte, car il n'avait pas envie de se relancer dans des complicités bancaires. On ne réussit pas toujours le coup de la Banque de France. Landru allait donc ajouter un nom à la funeste liste, lorsqu'un incident qu'il n'avait pas prévu se produisit, l'obligeant à retarder l'exécution de sa nouvelle victime. Le soir de son arrivée, le sire de Gambet avait été un peu surpris de constater qu'au cours du dîner, Madame Collomb, qui jusqu'alors s'était toujours montrée si pleine d'entrain et de gaieté, avait une mine plutôt soucieuse. À plusieurs reprises, il lui demanda si elle n'était pas souffrante et si elle n'avait pas quelques ennuis. Et chaque fois, elle lui répondait: Non, je n'ai rien, je vais très bien, au contraire, je suis très contente. Mais tout à coup, au dessert, comme Landru se penchait vers elle pour l'embrasser, elle éclata en sanglots. L'attirant dans ses bras, le gredin lui demandait d'une voix pleine d'affectueuse compassion: Tu as du chagrin, ma belle, et tu ne veux pas me le dire. Mais pourquoi me le cacher? C'est ton ami qui te fait des misères? Oh non, oh non! Sanglotait la malheureuse. Alors quoi? Mais apprends-moi la vérité. Tu n'as donc pas confiance en moi? Oh si! Alors, Georges, je t'ai raconté que je n'avais pas de famille. Oui, bien. Je t'ai menti. J'ai encore mon père et ma mère et une jeune sœur. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit cela? Parce que j'avais peur que cela t'empêchât de m'épouser. Tu es folle. Et puis, je n'osais pas leur apprendre que j'étais fiancée. Oh, tu oublies donc de moi. Georges, comment peux-tu avoir une pensée pareille? Embrasse-moi. Ils s'étreignirent, puis elle reprit le visage rasséréné et même devenu souriant. Eh bien, puisque tu es si gentil, sais-tu ce que nous allons faire? Oh, je te vois venir, fit Landru, toujours perspicace. Oui, tu voudrais demander à tes parents de venir passer une journée ici. Non, pas mon père et ma mère. Non, nous irons les voir à notre prochain voyage à Paris. Mais ma sœur. Bon, si ça te déplaît, dis-le-moi, je n'insisterai pas. Landru réfléchit qu'après tout, puisqu'il ne pouvait plus éviter cette famille, il était peut-être plus prudent de sa part de se mettre bien avec elle. Et tout haut, il reprit. Eh bien, c'est entendu, puisque cela te fait un si grand plaisir. Écris à ta sœur de venir déjeuner avec nous. Voyons, nous sommes le 21, eh bien, le 24. De nouveau, Madame Colomb sauta au cou du monstre. 3 jours après, sa sœur, Mademoiselle M, arrivait à Gambet. Landru lui prodiguait aussitôt toutes les marques de la sympathie la plus vive. Un excellent déjeuner avait été préparé. La table était ornée de fleurs. Le prétendu Georges Cuchet se montra envers sa future belle-sœur, plein de prévenance et d'attention. Il acheva de conquérir ses bonnes grâces en lui affirmant que Madame Colomb et lui seraient en mesure de régulariser leur situation dans un délai assez rapproché. Bref, il produisit sur Mademoiselle M une excellente impression. Elle félicita vivement sa sœur de son choix, et lorsqu'elle rentra le soir chez ses parents, elle eut ce mot: Oh, monsieur Cuchet est charmant! Anna ne pouvait pas mieux tomber! Le lendemain, sous prétexte de se rendre au ministère de l'armement, demander certains renseignements au sujet de sa future usine, Landru se rendait à Paris. Sa fiancée l'accompagnait, et laissant son Georges à ses occupations, elle s'en allait voir ses parents, qui lui disaient combien leur fille était revenue satisfaite de sa visite à Cambrai. Complice insouciante de son propre assassin, Madame Colomb en faisait à son père et à sa mère un éloge enthousiaste. Elle leur dit qu'il l'avait chargée de l'excuser auprès d'eux de ne pas être venue les voir avec elle. Mais elle leur assura qu'ils viendraient tous deux le 1er janvier et leur souhaiter une bonne année. Et après leur avoir témoigné tous les témoignages de sa tendresse, elle les quittait pour rentrer à Gambet, car, disait-elle, elle avait beaucoup à faire pour mettre tout en ordre dans la villa. Un ménage de garçon, ça se comprend. Un homme a beau être ordonné, méticuleux Et c'était le cas. Faut toujours la main d'une femme dans une maison. Et elle partit exultant d'allégresse. Ni son père, ni sa mère, ni sa sœur ne devaient jamais la revoir. Landru l'attendait à la gare. Il prit deux billets pour Garancière, un aller-retour pour lui, un billet simple pour elle, comme pour Madame Guillain. C'est le lendemain, le 27 décembre, dans l'après-midi, que le drame dut se passer. En effet, le matin, le gredin avait acheté de la viande pour deux personnes. Mais le soir, il rentrait seul à Paris. Maintenant, Landru, avec un sang-froid dont le cynisme n'a pas de limite, va s'efforcer de dérouter les parents de sa victime, ou tout au moins de lancer dans une fausse direction les recherches auxquelles il y a de grandes chances qu'ils vont se livrer. Déjà, il a bâti son plan, car ce formidable criminel est doué d'une fertilité d'imagination qui n'a d'égal que son infernale roublardise. Il se hâte d'abord de déménager de son pied-à-terre de la rue de Châteaudun, où il sait que cette adresse est connue de la famille de Madame Colomb, et il s'en va habiter rue de Maubeuge sous un autre nom, celui de Guillet. Il sait d'autre part que sa victime a laissé chez une débitante, Madame G., une petite dette urgente. Un jour, elle n'a pas réglé, faute de monnaie, le montant de deux bouteilles d'eau de vie. Une réclamation est à craindre. Landru envoie, le 19 janvier 1917, son fils Maurice, qui a été mobilisé et est en ce moment en permission, régler la dette comme s'il était le mandataire de Madame Colomb. Stylé par son père, qui d'ailleurs ne lui a donné qu'une consigne formelle sans la moindre explication, le jeune tenant répète fidèlement à la cabaretière la leçon que Landru lui a faite, à savoir que dans le midi, à Valence, il a rencontré à une table d'hôte Madame Colomb, qui, apprenant qu'il se rendait à Paris, l'a prié de passer chez la débitante et de lui remettre avec sa carte la somme de 20 francs pour solder ce qu'elle lui doit. Il se présente ensuite lui-même au domicile de Madame Colomb, rue Rodier, et il raconte à la concierge, Madame L., qui s'est mise en ménage avec sa locataire, qu'elle est très heureuse, ne manque de rien, qu'elle ne rentrera pas de sitôt à Paris et qu'elle a des raisons sérieuses pour ne pas donner de ses nouvelles. Et plaçant dans les mains de la concierge un billet de 10 francs, il lui dit « C'est pour assurer votre secret professionnel. » Enfin, dans le but de prévenir des recherches dangereuses pour sa sécurité, Landru fait porter par son fils à Mademoiselle M., la sœur de Madame Colomb, un colis portant l'étiquette de la gare de Nice et renfermant un magnifique bouquet auquel est joint une carte de Madame Colomb avec au-dessous les initiales manuscrites GC, c'est-à-dire Georges Cuchet. Le bandit espérait ainsi faire croire à la famille M que la veuve était en voyage dans le Midi avec lui et calmer les alarmes auxquelles pouvait donner lieu une absence aussi imprévue et aussi prolongée. Mais cette fois, les prévisions de Barbe Bleue, de Gambet, n'allaient pas se réaliser. De plus en plus inquiet du silence persistant de Madame Colomb, la famille M, s'étant rendu compte d'ailleurs que le colis ne venait pas de Nice et que l'étiquette de la gare d'origine avait été faussement apposée, s'alarma tout de bon. Mais, par crainte d'un scandale, car à ce moment-là, Mademoiselle M était fiancée à un monsieur P, qu'elle devait épouser par la suite, ces braves gens, au lieu de s'adresser à la police officielle, s'en furent trouver un détective privé, le sieur G, qui se mit aussitôt en campagne. Ses recherches demeurèrent infructueuses et il dut bientôt renoncer à percer le mystère. Mais un drame encore plus tragique que les quatre autres allait s'ajouter à ceux dont nous venons fidèlement, véridiquement, de redresser les péripéties. Landru, cette fois, allait s'attaquer à une jeune fille de 19 ans.